France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir le docteur Baptiste Beaulieu, un homme qui, non content d'exercer un des plus beaux métiers du monde, a décidé de le raconter aux autres, de le raconter et de se raconter. Baptiste Beaulieu est un médecin conteur. Il a commencé à distiller ses histoires sur son blog il y a quelques années. Alors voilà, est ensuite devenu un livre sur les mille et une vies des urgences. C'est désormais une pièce de théâtre qui est à l'affiche à Paris depuis hier soir. On va évidemment en parler avec lui, on parlera aussi de ses autres livres, car Baptiste Beaulieu est devenu romancier entre-temps. Il est aussi chroniqueur sur France Inter et toujours médecin dans un cabinet toulousain. Autant dire qu'il est bien placé pour commenter l'actualité de cette semaine, avec notamment la grève des urgences qui n'en finit pas de s'étendre malgré le plan présenté par le gouvernement. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menahem et réalisée par Marion Lelay, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, on vous emmène au bal musette avec des mordus de danse du 3e et du 4e âge. Vous verrez que c'est sans doute un des meilleurs moyens de se maintenir en forme et de garder le moral. À 19h20, au téléphone sonne, et si nous profitions de la journée mondiale des premiers secours demain pour nous former aux gestes qui sauvent, ce sera possible ce samedi partout en France, notamment grâce à la Croix-Rouge. Alors, si vous avez des questions à poser ou des témoignages à nous livrer, surtout appelez-nous au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Baptiste Beaulieu.
Bonsoir Claire.
Bienvenue sur France Inter, bienvenue chez vous, j'ai envie de dire. Ah oui, vous êtes chroniqueur tous les lundis dans l'émission d'Ali RBI, grand bien vous fasse. Merci d'être avec nous alors que votre premier livre, alors voilà, Les mille et une vies des urgences, est désormais à l'affiche du Théâtre des Béliers parisiens. La première a donc eu lieu hier soir avec Axel Orient dans le rôle de l'interne en médecine qui découvre la réalité de l'hôpital. Ce sont donc vos textes avec une mise en scène d'Arthur Junio. La pièce a été jouée à Avignon l'été dernier. Elle arrive donc à Paris. C'est incroyable quand on sait comment tout cela a commencé, Baptiste Beaulieu.
Ah, c'est un bonheur en tant que romancier parce que vous savez, on imagine des personnages, on les écrit, et puis les personnages prennent vie. On espère que les lecteurs les aimeront, et puis d'un seul coup, on les voit sur scène et ils continuent à raconter notre histoire et c'est merveilleux. Et puis très honnêtement, j'ai toujours écrit ce livre. Je l'ai écrit en pensant déjà à une pièce de théâtre, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus théâtral qu'un hôpital,
Que vous dites pour un romancier, mais mille et une vies des urgences, on a l'impression surtout que c'est du témoignage brut, hein, au départ.
Oui,
c'était sur votre blog au départ.
Tout à fait. Hein. La volonté, c'est que je voulais raconter aux gens la beauté de mes collègues, de ce qu'ils vivent au quotidien, au pied, au lit du patient. Jean-Pierre Pernaut va jamais ouvrir le journal de 20h en disant que dans que dans le petit hôpital de Hoche, il y a une aide-soignante qui a massé l'abdomen d'un homme pour qu'il puisse aller à la selle normalement sans lui donner de laxatif, et qu'elle a passé un quart d'heure le matin et un quart d'heure le soir qu'elle a pris sur son propre temps de repos pour pouvoir lui éviter cette médicamentation. Et dans ce geste humain, là, je veux dire, ça peut donner du courage aux gens et de l'espoir et de leur dire voilà ce qui se passe dans les hôpitaux. Il y a des gens qui sont couchés et d'autres qui les relèvent.
On ne sait pas suffisamment ce qui se passe du côté des soignants quand on est soi-même patient, Baptiste Beaulieu.
Je crois qu'on le sait, mais quand on arrive à l'hôpital, on débarque sur une planète étrangère. Rendez-vous compte, on est malade, on a peur, on se pose des tas de questions, on vous met tout nu sous une blouse, des gens que vous ne connaissez pas entrent dans votre chambre, parfois vous touchent, vous examinent, se présentent parfois même pas, ne disent pas leur fonction. Et donc cette planète étrangère, je voulais vraiment la rendre un peu plus hospitalière au lecteur et maintenant au spectateur, parce que on est tous amenés un jour ou l'autre à côtoyer les hôpitaux.
Oui. Ça c'est sûr. C'est difficile pour ceux qui viennent, c'est aussi compliqué pour ceux qui soignent, Baptiste Beaulieu. Surtout que l'interne, par définition, c'est un jeune, il se retrouve confronté à quoi ? À la réalité de la vie, aux urgences, c'est vraiment ça, on s'en prend plein la figure.
Moi j'avais 22 ou 23 ans quand j'ai vu un cadavre pour la première fois, donc c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. J'avais 24 ans quand j'ai accompagné le SAMU et qu'on a perdu un enfant au cours de l'intervention, et c'est des choses qu'on n'oublie jamais, et que par pudeur ou parfois pour des questions de peut-être de virilité mal placée, on n'ose pas confier aux autres, et donc on garde cette douleur avec nous, ces questions existentielles, parce que ce sont des questions existentielles, on les garde en nous et parfois elles grandissent et puis elles nous font du mal, quoi.
Vous dites avec ce métier on prend un ascenseur émotionnel environ 40 000 fois par jour.
Oui, parce qu'on ouvre une porte On va avoir une situation triste, on ouvre une autre porte, on va avoir une situation joyeuse, parfois belle, parfois pleine d'espoir aussi. Et donc, il y a cet ascenseur émotionnel permanent qui nous fait toucher du doigt la beauté de la condition et de l'existence humaine, quoi.
Alors, il y a des choses dures, et du coup, je sais pas, c'est peut-être pour s'en préserver, du côté des jeunes médecins, on utilise l'humour noir. Alors, je voudrais citer quand même un extrait de votre livre. Aux urgences, il faut préserver la chaîne du chaud. Un produit congelé, décongelé, recongelé, c'est immangeable. Pour nous, c'est l'inverse. Un homme refroidi trop fort et trop longtemps, ce n'est pas récupérable. L'homme est un saumon qui prend la chaîne du froid à l'envers.
Vous savez, on arrive sur une intervention, il y a un patient qui est allongé, et on est jeune, on est plein d'espoir et on veut sauver le monde entier. Et parce que aussi dans les livres, tout a l'air toujours facile et que les livres disent le patient présente tel symptôme, alors on lui donne tel médicament. Mais les livres mentent parfois et les livres ne disent pas la réalité, qui est que parfois les médicaments ne suffisent pas. On se prend cette vérité-là aussi à 22, 23 ans en pleine tronche et c'est difficile.
Voilà, les médicaments ne suffisent pas et puis parfois ils sont pris pas tout à fait comme il faudrait. Je voudrais qu'on écoute un extrait donc de la pièce, c'est dans le livre. Un couple un jour se présente à l'hôpital.
Madame Fer, Monsieur Fer, 27-28 ans. Elle a des douleurs abdominopelviennes. Alors bon, je me renseigne sur la possibilité d'une grossesse. Vous prenez la pilule, Madame Fer. Et là, son mari la réprimande.
Bah, elle est pas très sérieuse.
Et du coup, quand elle oublie, c'est moi qui la prends. Alors, pardon, vous prenez quoi?
Bah ça, pilule.
Dans votre bouche. Vous avez laissé la pilule dans votre bouche?
Bah ouais, dans la bouche. C'est pas un suppositoire quand même.
Véridique ça, Baptiste Beaulieu?
Oui, je crois qu'il n'y a pas un médecin en France qui n'a pas vécu cette situation-là.
C'est vrai qu'aux urgences, on envoie des vertes et des pas mûres.
Mais c'est là qu'on se rend compte de l'effort qu'on doit faire, mais qui est un effort louable, qui est un effort de vulgarisation permanent. J'ai déjà vu un patient qui venait pour une otite et qui me disait qu'il ne pouvait pas avaler les comprimés trop gros, et donc je lui prescris des suppositoires et qui est revenu avec le suppositoire dans l'oreille parce que je lui avais pas dit que le suppositoire fallait le mettre par voie rectale. Ça montre aussi que il y a aussi un effort sur le plan de l'éducation nationale pour aider et vulgariser aussi les soins médicaux.
Alors, il y a ceux qui, peut-être pour certains, abusent des urgences, qui ne veulent pas déranger leur médecin traitant qui viennent à l'hôpital. Puis, il y a aussi ceux qui ne se plaignent jamais. Alors, on va écouter un autre extrait de cette pièce, de votre livre, qui concerne une jeune femme.
Matouba, 27 ans, est enceinte de son troisième enfant. Les contractions débutent à peine. Et ce jour-là, les lits de la maternité sont tous occupés. Elle ira donc aux urgences en attendant qu'une place se libère. Frotti la prévient. Bon, écoutez, vous sonnez s'il y a le moindre problème. Et une heure plus tard, Matoba fait signe à Frotti par l'embrasure de la porte. Excusez-moi, vous auriez des ciseaux pour couper le cordon. Frotti, je vous avais dit de m'appeler s'il y avait le moindre problème. Ah oui, mais il n'y a pas eu de problème. Et bien peut-être que Matoba a raison. Il n'y a jamais de problème avec la vie. Elle va.
Voilà, c'est Axel Orient qui raconte.
Fantastique, Axel Orient.
Voilà, ce qui raconte cette réalité de l'hôpital, cette dame. Alors là, il devait y avoir effectivement trop de monde. Elle est restée aux urgences. Les urgences, Baptiste Beaulieu, évidemment, on en a beaucoup parlé cette semaine. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a annoncé un certain nombre de mesures pour tenter de désengorger. C'est un premier pas, vouloir désengorger et orienter vers la médecine de ville.
Je crois qu'on peut pas penser une politique hospitalière sans les principaux concernés qui sont les patients, les patientes et le personnel soignant. Et vous savez, c'est très difficile quand on est médecin généraliste comme moi, qu'on reçoit un dimanche après-midi sur son téléphone portable un appel d'une aide-soignante qui est en larmes au téléphone et qui nous demande de lui prescrire comme ça au débeauté des contentions physiques, vous savez, des attaches pour pouvoir attacher les patients, parce qu'elle est toute seule pour gérer 40 patients dans le service et qu'elle n'y arrive plus parce qu'ils se lèvent et qu'elle a besoin qu'ils restent allongés pour qu'elle puisse s'occuper de la chambre d'à côté. Et quand je lui dis qu'il n'y a pas de raison médicale qui justifie une contention physique, parce que c'est un geste violent d'attacher quelqu'un à un lit, elle se met à pleurer parce qu'elle se rend compte que l'institution sécrète naturellement de la maltraitance aussi et qu'elle a probablement pas fait ce métier pour attacher des gens à un lit, quoi.
Vous, Baptiste Beaulieu, vous êtes passé par l'hôpital dans le cadre de vos études. Aujourd'hui, vous êtes médecin de ville, comme on dit, dans un cabinet de groupe à Toulouse. Vous êtes confronté, vous aussi, à des afflux de patients qu'il faut renvoyer parfois
à
l'hôpital.
Les gens s'imaginent souvent, vous savez, que le désert médical, c'est un concept qui touche les grands plateaux de l'Auvergne, le fin fond de la France, les milieux vraiment ruraux. Mais en fait, le simple fait d'avoir un rendez-vous avec un ophtalmologue dans 12 mois ou avec votre médecin généraliste dans une semaine alors que vous avez une angine, ça c'est du désert médical. Le temps de consultation dans les années 80 était beaucoup plus long qu'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est 7 minutes, 7 minutes et demie par patient. Ça c'est du désert médical et ça touche aussi Paris, ça touche toutes les grandes villes, les grandes métropoles, ça touche tout le monde.
On y reviendra évidemment, Baptiste Beaulieu, mais on va passer comme tous les vendredis à l'actualité de la semaine grâce à ce mix qui a été mis en onde par Céline Hila. Et on commence justement par la crise des urgences.
Urgence de France en colère.
Même si tu fais genre que non, tu sais très bien que c'est du vent. Balance ton plan.
Je souhaite mettre en place dans tous les territoires un service universel pour répondre à toute heure à la demande de soins des Français. C'est ce que j'ai appelé le SAS. Ça veut dire service d'accès aux soins.
Désengorger les services des urgences. Voilà la priorité pour la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Elle promet de débloquer 750 millions d'euros sur 3 ans. Insuffisant, répond le collectif Interurgences qui rappelle ses priorités.
Des moyens pour travailler.
Plus d'effectifs, plus de salaires et plus de lits.
Balance ton plan, file-nous de quoi soigner les gens. Balance ton plan.
Tiens, une nouvelle consultation. Voilà comment le gouvernement compte sortir de l'épineux dossier des pesticides. Vous avez 3 semaines pour dire sur Internet à quelle distance des habitations il vous semble possible de pulvériser ces produits sur les cultures. Le ministre Didier Guillaume suggère entre 5 et 10 mètres.
Entre 0 et 150 mètres, il y a possibilité de regarder les choses. Nous faisons la base de départ de l'enquête à 5 et 10 mètres.
Entre 5 et 10 mètres. Le maire de Langouette, Daniel Cueff, qui a pris un arrêté pour interdire l'épandage à moins de 150 mètres, s'en étrangle.
J'ai cru que c'était une fake news. Cette distance des 5 mètres et ces 10 mètres, c'est déjà ce qui se trouve sur les bidons de pesticides et d'insecticides. Et pour les respirer moins, il faut 150 mètres.
Today I'm presenting my team for Europe.
À Bruxelles, la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté son équipe mardi. Mais parmi les intitulés des portefeuilles des futurs commissaires, il y en a un qui fait polémique.
Un commissaire à la protection de notre mode de vie européen en charge des migrations.
L'eurodéputé Raphaël Glucksmann.
C'est une capitulation en race campagne devant les populistes et les nationalistes qui gagnent du terrain en Europe.
Marine Le Pen, elle a fait sa rentrée dimanche à Hénin-Beaumont. L'occasion de lancer un appel pour les municipales sur le thème et de droite et de gauche, ça ne vous rappelle rien ?
Ce qui nous anime, c'est un esprit d'ouverture et d'union de toutes les bonnes volontés. Venues de droite ou de gauche, du centre ou d'ailleurs.
Les municipales qui donnent des boutons à La République En Marche et peu d'occasions de se réjouir. Alors quand Édouard Philippe lève l'hypothèque Paris, tout le monde applaudit.
Il y a déjà un excellent candidat investi par La République En Marche à Paris.
Il s'appelle Benjamin Griveaux. Il est là. Il est intelligent, il est déterminé, il est tenace.
Benjamin Griveaux, dont le nom rime avec travaux. D'ailleurs, il promet de suspendre les chantiers en cours dans la capitale jusqu'à fin 2020, qu'on prenne qui pourra. En attendant, ces municipales viennent pourrir l'ambiance jusqu'à l'Assemblée, au grand regret du président du groupe LREM, Gilles Legendre.
Je ne veux pas que s'invite dans la vie du groupe une sorte de compétition. Ça, là-dessus, je serai très ferme. Il se pourrait même que je devienne un peu raide.
Oh ben non ! Surtout qu'il y aura sans doute bien d'autres raisons de se raidir, à commencer par la mise en examen du président de l'Assemblée, Richard Ferrand. À la rubrique « Arrêtez de vous disputer, mettez-vous d'accord », il y a eu cette semaine aussi le différend entre Noël Le Graët et la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, à propos de l'homophobie dans les stades et de la nécessité ou non d'arrêter les matchs.
J'arrêterai un match pour des cris racistes. position qu'a pris Noël Le Graët en faisant la différenciation entre homophobie et racisme, elle est erronée, on peut le dire. Bah, en fait, je me suis dit, on n'est qu'au début du chemin.
Emmanuel Macron a été obligé de siffler la fin de la partie entre eux deux en leur demandant de s'entendre. On termine avec l'exploit de la semaine, que dis-je, de l'année, de la décennie même. La victoire de l'équipe de France de basket sur celle des États-Unis. Mais comme le dit Evan Fournier, auteur de 22 points contre les Américains, chaque chose en son temps.
On a gagné le quart, mais si on perd les deux prochains matchs, on rentre comme des connards à Paris avec rien.
Et il avait raison de rester prudent puisque les basketteurs français, vous l'avez entendu tout à l'heure, se sont inclinés finalement en demi-finale. Enfin, cela dit, ils ont quand même battu les Américains. Encore merci à Céline Hila. Une semaine en France, toujours en compagnie de Baptiste Beaulieu. Baptiste Beaulieu, y a-t-il quelque chose que vous souhaitez commenter dans ce que vous venez d'entendre?
Oh ben, évidemment, les déclarations du président de la Ligue professionnelle de football sur l'homophobie qui explique que PD, entre guillemets, est un terme visant simplement à rabaisser l'autre. C'est justement ça le problème. Depuis le début de l'humanité, la moitié de l'humanité pénètre l'autre moitié. Au lieu d'en faire un symbole d'accueil, d'hospitalité, on en a fait un signe d'avilissement, on l'a utilisé, la pénétration, comme un moyen d'insulter l'autre, de le rabaisser. Ce serait peut-être bien qu'on réfléchisse à nos insultes, qu'on change un petit peu nos insultes, parce que comme on parle, on pense.
C'est ce qu'a dit la ministre des Sports, Oksana Maracineanu. Elle dit qu'il y a suffisamment d'insultes dans la langue française pour qu'on puisse trouver bien autre sûr. Chose. Vous approuvez sa fermeté dans ce dossier?
Je suis d'accord avec elle, mais on peut pas dire je lutte contre le racisme dans le foot, mais l'homophobie ne me dérange pas. Tout ça, ce sont des systèmes qui s'interpénètrent les uns les autres. Je veux dire le sexisme, le racisme, l'homophobie.
C'est un tout.
C'est un tout. Il faut les combattre tous ensemble.
Surtout qu'il y a les mots, et puis il y a des agressions aussi. Vous-même, Baptiste Beaulieu, vous avez eu à le subir.
Oui, ça m'est arrivé deux fois d'être agressé en raison de mon homosexualité. Mais ce que je voudrais dire, je crois fermement qu'il n'y a pas de différence de nature entre dire à quelqu'un « sale pédé » et une claque parce qu'il est homosexuel. Il y a une différence de degré. Et en permettant à ces spectateurs de s'invectiver en utilisant ces termes-là, il fait beaucoup de mal, je crois, à tous les jeunes enfants qui regardent les matchs, qui se posent peut-être des questions. Vous savez, en France, il y a 14 millions de mineurs. 14 millions de mineurs, on estime que la population lesbienne, gay, bi, trans, c'est 4% de la population. Eh ben, 4% de 14 millions, ça fait 600 000 enfants qui entendent jour après jour que ce qu'ils sont, leur orientation sexuelle, est une manière d'insulter l'autre, de le rabaisser. Comment est-ce qu'on peut s'aimer, comment est-ce qu'on peut grandir avec une certaine assise narcissique quand on entend jour après jour rabâcher comme ça que ce qu'on est risible et c'est pas possible.
Baptiste Beaulieu, dans l'actualité, il y a aussi la révision des lois de bioéthique avec l'adoption en commission cette semaine à l'Assemblée du premier article qui ouvre la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses commencent à avancer?
Je l'espère, mais je crois qu'il y a beaucoup aussi de la part du public et des gens une certaine méconnaissance sur le sujet. Je m'explique. Vous savez, on estime que 25% des couples hétérosexuels ayant recours à la PMA souffrent de ce qu'on appelle une infertilité sociale, c'est-à-dire que l'homme pris à part est fertile, la femme pris à part est fertile, pourtant les deux ensemble n'arrivent pas à concevoir d'enfants. Personne jamais ne va leur dire mais pourquoi madame ne va pas voir le voisin, pourquoi est-ce qu'elle ne sort pas en boîte un soir avoir un rapport sexuel avec un homme. Ce serait horrible de dire ça, ce serait indigne. Pourtant, c'est ce qu'on dit à demi-mot aux femmes lesbiennes en couple en leur disant « Mais pourquoi mes impôts paieraient pour que vous accédiez à la parentalité alors qu'il suffit que l'une d'entre elles, entre vous, aille en boîte sortir avec un homme une fois ?» Personne ne dit ça aux couples hétéros. On le dit aux couples lesbiennes qui payent aussi des impôts et surtout qui, à mon avis, feront d'excellentes mères. Et c'est pas moi qui le dis en tant que scientifique, c'est les études qui le montrent, les études faites sur 30 ans. Et je crois que c'est important de rappeler aussi que depuis 30 ans, on a pari dans les couples hétéros ayant recours à la PMA, on a pari le donneur de sperme au père légal. C'est-à-dire qu'on prend des hommes qui ont le même groupe sanguin, la même carnation, le même phénotype, c'est-à-dire les mêmes yeux, la même couleur de cheveux. Alors officiellement, c'est pour que l'enfant, au sein de sa fratrie, puisse se reconnaître avec ses frères et sœurs. Officieusement, tout le monde sait très bien que c'était pour permettre aussi aux parents de ne pas dire la vérité aux enfants. Alors que s'il y a bien un couple qui ne peut pas mentir, c'est le couple de femmes lesbiennes.
Voilà, c'est un mensonge social instauré, hein, comme l'explique très bien Irène Théry. Baptiste Beaulieu, je voudrais qu'on dise un mot de ce que représente l'écriture pour vous. Mm-hmm. Hein, on a dit que tout avait commencé avec ce blog il y a quelques années. Vous aviez 23 ans à l'époque. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a une journaliste du Monde qui a repéré votre blog et qui a fait un article. Et à partir de là, tout s'est emballé. On vous a proposé de vous éditer. Vous avez raconté cet été dans les colonnes du Monde, comment ça s'est passé? Que vous êtes allé dire merci à cette journaliste,
oui, c'est Sandrine, hein,
Sandrine Blanchard avec un bouquet de fleurs.
Oui, elle a changé ma vie, mais vous savez, on se rend pas forcément compte quand on est journaliste du pouvoir qu'on a. Et elle a écrit un papier dans Le Monde qui était magnifique sur mon écriture, sur ce que j'essayais de raconter aux gens sur la vie à l'hôpital. Et donc je lui ai offert un bouquet de fleurs, mais j'étais tellement heureux que je suis retourné le lendemain avec un deuxième bouquet de fleurs. Et elle m'a dit c'est gentil, mais va falloir arrêter.
Je crois qu'elle
commençait à avoir un petit peu peur, peut-être.
Toujours est-il que vous avez été édité, et mm-hmm. il paraît même que vous avez du coup changé le thème de votre thèse de médecine suite à ça. Vous travailliez à l'époque sur le microbiote et puis du coup vous êtes passé sur
Tout
les relations soignants-soignés.
Quand Alexandrine Duin, qui est mon éditrice, m'a proposé du coup de me lancer dans l'écriture, la faculté de médecine m'a proposé de modifier mon sujet de thèse pour faire spécifiquement un sujet sur la relation soignant-soigné, et qui était mon cheval de bataille, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'on s'entende mieux, qu'on se comprenne mieux, que les patients puissent aller consulter leur médecin sans avoir parfois la peur au ventre, et puis comment faire en sorte que nous, soignants, on puisse être heureux d'aller au travail dans de bonnes conditions tous les matins.
Alors vous avez continué à écrire, Baptiste Beaulieu, à propos de la maladie, de l'hôpital. Il y a eu La balade de l'enfant gris, livre terrible. Il y a eu aussi Alors vous ne serez plus jamais triste. Et puis il y a eu le dernier livre, plus récemment, Toutes les histoires d'amour du monde, chez Mazarine. Là, ce sont des histoires d'amour briquées, à commencer par l'histoire d'amour qu'a connue votre grand-père pendant la guerre, que votre père a découvert à sa mort dans des cahiers. Mmh. Il n'en avait jamais parlé à personne. Elle est vraie, cette histoire?
Elle est vraie. Quand mon grand-père est décédé, on a retrouvé 3 carnets dans une malle qui étaient des lettres d'amour adressées à une femme que personne ne connaissait dans la famille. Donc on est tombé des nues, et on est d'autant plus tombé des nues que mon grand-père était un personnage très silencieux. Tout à l'heure, on parlait du ghetto intérieur. Typiquement, mon grand-père était dans son ghetto intérieur, ne parlait pas, ne disait rien, ne souriait presque jamais. Et quand on a découvert ces lettres où il racontait toute sa vie à cette femme, on a compris quelle était cette blessure et pourquoi il était dans cet état-là. C'est qu'il avait aimé. Il avait aimé follement, et puis il a été séparé de cet amour dans des conditions terribles, comme seule
la guerre peut
en sécréter. Et mon objectif avec ce roman, c'est que les gens le lisent, qui voyagent peut-être en Allemagne, aux États-Unis, et qu'ils tombent peut-être entre les mains de la fille, de la petite fille, de
voilà,
cette femme.
Voilà, c'est parce qu'il y a une fille qui est née de cet amour. Cette fille, vous savez pas où elle est. Vous lancez même un appel à la fin de votre livre.
Exactement.
Pour tenter de la retrouver.
Exactement.
Il y a des lecteurs qui l'ont recherché.
Il y a des lecteurs qui m'ont aidé, qui m'ont écrit. J'en ai eu plusieurs. Moi, je crois vraiment au pouvoir de la littérature, des mots qui voyagent. J'ai écrit ce livre aussi. C'était une manière de dire, vous savez, le temps qui passe et la guerre brise tout, sépare les gens qui s'aiment, sépare les familles, sépare les amants. Et ben, en écrivant ce livre et en me disant peut-être que la littérature me permettra de retrouver cette femme et sa famille, et ben je gifle la guerre et le temps qui passe, et je leur dis cette histoire-là, vous ne l'aurez pas. Et je crois que si la guerre et le temps qui passe n'ont pas cette histoire, c'est toutes les autres histoires qui sont aussi un petit peu réparées. C'est-à-dire la vôtre, parce que je suis sûr que dans votre famille aussi, il y a des histoires comme ça. Toutes les familles en ont. Si j'arrive à retrouver cette famille grâce à ce livre, et je gifle la guerre et le temps qui passe.
Voilà, la guerre et l'amour impossible entre Français et Allemands. C'est un livre magnifique qui arrache des larmes, hein. Baptiste Beaulieu, je vous le dis très franchement, c'est un livre dans lequel aussi vous parlez de vous-même. Alors on va en parler de vous, Baptiste Beaulieu, dans quelques minutes, le temps d'écouter le groupe Delgrès sur France Inter.
See you later.
Lamela du groupe Delgrès, choix musical signé Djoubaka.
France Inter, le 18-20. Une semaine en France.
Une semaine en France en compagnie du docteur Baptiste Beaulieu. Vous êtes jeune, Baptiste Beaulieu. Vous êtes né en 85 à Toulouse. Vous avez 34 ans. Enfin, je ne sais pas, vous les avez déjà?
Oui, 34 ans. Oui.
Vous avez fait médecine à Toulouse. Vous avez grandi là-bas. Mm-hmm. Et c'est là-bas que vous exercez, donc dans un cabinet de groupe aujourd'hui.
Tout à fait. On est trois et c'est une grande joie pour moi de voir petit à petit. Vous savez, on a des patients qui finissent par nous ressembler aussi. Et je suis content de voir que j'ai de plus en plus de patients qui sont blessés et qui viennent. De voir qu'ils arrivent à parler, ça dit quelque chose de moi aussi. Je suis content d'avoir cette écoute-là pour eux.
Est-ce qu'il y a eu un acte fondateur, une rencontre, un événement, quelque chose de particulier qui vous a poussé à faire médecine?
Alors, je ne connais pas un médecin qui n'a pas cet acte fondateur. Moi, il y en a plusieurs. On parlait de mon grand-père, justement, qui était ce taiseux et qui a vécu des choses très difficiles à la guerre. Et je devais avoir 2-3 ans à peu près. Et il y avait un lézard, je me souviens, sur la terrasse. En été, il prenait le chaud comme ça, le soleil. Et puis, vous savez, à 2-3 ans, on veut savoir ce que c'est la vie, la mort. Et je me souviens, j'ai pris un caillou et j'ai écrasé le lézard, comme certains enfants de 2-3 ans peuvent faire avec les fourmis. Et mon grand-père, qui avait fait la guerre et qui était taiseux, comme je disais, en voyant ça, était très en colère et c'est emporté. Mais au-delà du raisonnable, il m'a mis le lézard dans la main et il m'a dit, tu vois, ça c'est la mort et maintenant ce que tu as fait, tu pourras plus jamais le défaire. Et je crois que ça a inscrit en moi une forme de culpabilité que depuis, je veux aider les gens. Juste parce qu'à l'âge de 2 ans, j'ai tué un lézard. Comme quoi, ça tient un peu de choses. Hein.
À cause du lézard, sinon votre famille n'était pas particulièrement dans ce domaine-là.
Pas du tout.
Votre papa était, si j'ai bien vu, photographe. Votre mère professeure de français, c'est ça? Il paraît qu'elle vous a bercé en vous racontant les grandes histoires de la mythologie grecque.
Ah, mais c'est
Ulysse,
vraiment...
pour vous endormir.
Ma mère et ses histoires, c'est vraiment l'acte fondateur qui m'a poussé à vouloir raconter à mon tour des histoires. C'est incroyable de grandir enfant avec la mythologie grecque. Vous savez... Tous les grands romanciers ont tout volé à la mythologie grecque. Hein. La mythologie a tout inventé.
Qu'est-ce qu'elle vous disait, votre maman, à propos du soleil? Ça m'a beaucoup plu, ça.
Ah, le matin, on se levait, puis il fallait faire le salut égyptien au soleil. Alors, on levait les mains comme ça, et puis on profitait de ce petit moment suspendu avec les rayons qui nous caressent. Et c'est une manière aussi d'être présent et d'être ensemble.
Si je vous dis bien faire et se tenir en joie, expliquez-nous, c'est gravé où?
Oui,
ça?
Oui, c'est une phrase que j'ai tatouée autour du poignet, c'est une phrase de Spinoza, c'est sa définition de la morale. Il explique très bien que dans la vie, quand on est amené à faire un choix et qu'on ne sait pas lequel est le bon, il faut arriver à choisir celui qui fera jaillir en nous de la joie simple, de la joie pure, et que c'est une manière aussi de... jamais être un connard, tout simplement, voilà.
Est-il vrai, Baptiste Beaulieu, que vous avez le projet d'aller ouvrir un dispensaire en Inde, à Pondichéry? J'ai
Alors,
vu ça aussi.
Oui, j'avais ce projet-là il y a longtemps, puis j'ai grandi. Puis vous savez, on a toujours, en tant que blanc, ce complexe aussi du sauveur, de vouloir aller dans des pays en voie de développement et de vouloir sauver tout le monde. J'en suis revenu parce que je pense qu'il y a une vision assez raciste aussi de tout ça. Ce qui est certain, c'est que j'utilise une partie de mes droits d'auteur pour financer des écoles, c'est-à-dire aider des gens qui sont là-bas, qui sont locaux, qui savent ce dont ils ont besoin, et puis qui aident des gamins des rues à accéder à l'éducation.
C'est vrai que vos premiers livres, vous les avez écrits sur smartphone?
Oui, parce que vous savez, à l'hôpital, on n'a jamais un instant à soi, et les seuls moments où je pouvais écrire, c'était dans les couloirs, parce qu'il y a des longs couloirs à l'hôpital, et donc je sortais mon téléphone, et c'est là que j'écrivais très vite, beaucoup.
Et vous avez chopé une tendinite.
Et j'ai maintenant une tendinite des 2 pouces et je ne peux plus écrire sur smartphone, je suis obligé d'écrire sur ordinateur.
Prenez une tablette un petit peu plus grande, je vous assure, ça va marcher. Est-il vrai, Baptiste Beaulieu, que vous faites des claquettes?
Parce que c'est
à plusieurs reprises, oui. dans les mille et une vies des urgences, l'interne, il s'arrête pour faire des claquettes dans le couloir. Alors, je me dis que ça doit être vous, non?
C'est vrai et il n'y a rien de meilleur, vous savez, quand on a une journée difficile, d'écouter de la musique et de danser, parce que c'est un bon moyen d'exorciser ce que les gens ont vidé. Et ça leur a fait du bien, et c'est important aussi. Mais maintenant, pour tout vous dire, j'ai troqué les claquettes contre le vélo, puisque je fais mes visites à vélo, et c'est un pur bonheur régressif de monter sur mon vélo et d'aller en visite.
Oh non, non, mais il n'y a pas de honte à faire du vélo. Hein. Mais les claquettes, c'est très bien aussi. En tout cas, si vous aimez danser, Baptiste Beaulieu, ça tombe bien, parce qu'on va vous emmener danser, justement, maintenant, grâce aux bonnes ondes de Sandrine Houdin. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Baptiste Beaulieu plaide pour qu'on réenchante le monde. Vous avez trouvé un endroit où c'est déjà le cas, ça s'appelle Au Bon Temps. C'est un dancing qui se trouve à Sainte-Maure-de-Touraine, dans le sud de l'Indre-et-Loire. Vous y avez croisé Aimé, Fernand, Edmond, René, Colette. Ils ont entre 60 et 90 ans. Pour rien au monde, ils ne rateraient le bal musette du dimanche après-midi, le meilleur des remontants.
Écoutez, je suis partie malade. 300 km quand on a de la fièvre, je peux vous dire que ça paraît long. Eh bien, je suis repartie, mais avec une pêche, mais vous n'imaginez pas. Il y a quelque chose dans ces dancings, et tous le disent, un pied sur le parquet, on oublie tout. Alors pour certains, c'est leur petite retraite, pour d'autres, c'est leur douleur, leur arthrose, il y a aussi les deuils, et puis la solitude, évidemment. En zone rurale, pas toujours facile de trouver des activités le dimanche, surtout quand vos petits-enfants ne sont pas tout prêts.
Alors si, hypothèse d'école, on n'aime pas la musette, la valse, le tango.
Il faut essayer, Claire Baptiste, il faut essayer. Rien qu'une fois, je n'ai pas 70 ans. Je peux vous assurer, je me suis, mais éclaté.
Vous êtes très loin des 70 ans. En tout cas, Sandrine, j'aurais voulu vous y voir. Pour mieux comprendre, direction Sainte-Maure et en avant la musique.
Ça y est, ça vient d'ouvrir. On se dit bonjour, on s'embrasse et on se prépare comme ce monsieur pliant dessous une table.
Je change de chaussures. Je mets des chaussures qui glissent pour glisser sur le parquet.
Bernard n'est pas du coin, mais chaque fois qu'il est en vacances avec sa femme, il cherche un dancing.
On tourne pour essayer de trouver les danses qu'on aime dans chaque endroit différent.
Ouais, parce que sinon, la discothèque traditionnelle, c'est même pas la peine.
C'est boum boum.
Qu'est-ce que vous appelez le boum boum?
Pour lui, la danse, c'est en couple, parce que la danse, ça doit être un partage. Et les danses seules, comme quand on est jeune, qu'on a besoin de se défouler, c'est pas un partage.
Pour vous, c'est pas la danse?
Non, c'est pas de la danse, c'est de la gymnastique.
Bon après-midi à tous, bonne danse, et puis on y va avec Café de Paris.
Merci, allez, on vous attend sur la piste, hein, avec un petit passe-doble.
Bernard vient d'enlacer sa femme, 45 ans de mariage, Chantal adore.
Je suis sûre que je trouverai rien qui nous rapproche autant que ça. Oui.
Quand vous dansez votre mari dans un thé dansant comme ça, vous pensez à quoi?
À notre rencontre, à nos 20 ans, à tout ce qu'on éprouve quand on est jeune et qu'on ne se connaît pas beaucoup. C'est pour ça qu'on aime la danse comme ça, c'est de la séduction. Quand on est dans la vie de tous les jours, on n'a pas le même contact physique que quand on est dans les bras de son mari en train de danser. Je ne fais pas la vaisselle avec lui dans le dos.
Et ça tourbillonne, Cédric, derrière son bar est bluffé, c'est le patron de la maison.
Dès que la musique commence, ils vont tous sur la piste. J'ai essayé de danser avec eux, j'étais beaucoup essoufflé. Hein.
C'est un remède contre quoi?
Pour le moral. Les gens viennent pour s'amuser, pour rigoler, penser à autre chose, comme porte le nom du bâtiment, pour passer du bon temps.
Et hop, Jean-Pierre et Nicole, les yeux dans les yeux, sans conjoint.
Eh ben, ils sont à la maison.
Ils ont pas envie.
Ah non, mon mari l'aime pas, il chasse.
Et vous venez souvent ici au bon temps?
Nous, depuis le début, dès qu'on peut, on vient.
Vous tenez 4 heures?
Ah oui, oui, 5 heures même.
Est-ce que je peux vous demander votre âge?
72.
74.
71 pour Frida. Frida est veuve, elle vient tous les dimanches avec sa copine, pomponnée et parfumée.
Moi j'aime ça.
Sans le thé dansant, le dimanche, ça ressemble à quoi?
C'est mort, hein.
De quoi c'est mort?
Je sais pas, moi, on marche, ouais, d'accord, on revient chez soi, on boit une petite tisane, mais bon, ben, c'est fini, quoi. Est-ce que là, ça me décontrasse?
Décontracte?
Oui, ça me décontracte.
Frida, vous ne venez que pour l'amusement ou aussi peut-être pour trouver l'amour?
Oh, c'est un peu disqué. Quand il y en a un qui se présente, j'y vais, mais quand il n'y a pas d'homme, eh ben, on danse entre femmes.
Pour vous, l'essentiel, c'est de danser?
Voilà.
Danser, 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 Josette, 79 ans.
Moi, je viens parce que c'est un héritage de ma maman.
C'est bien.
Je l'ai perdue très très jeune. J'avais 10 ans et demi. Et elle m'a transmis son amour de la danse. Elle a fait des concours. Et quand je danse, c'est avec ma maman que je danse.
En fait, madame, dans ce dancing, là, il y a toutes les raisons pour lesquelles on vient ici.
Bah oui, parce que quelque part, c'est une évasion.
Et Madison, ça va durer jusqu'à 19h30, moyennant 10 euros et une petite madeleine. Gare à ceux qui trouveraient ça ringard, le doyen de la piste de danse, ça le met en colère.
C'est pas ringard ça, c'est les gens qui sont ringards, les gens qui pensent que c'est ringard. C'est la vie de danser.
Enfin la valse, la musette, certains pourraient dire...
Mais oui, mais ça s'appelle vivre. Vous croyez que ça s'appelle vivre de regarder la télévision toute la journée, puis de bouffer toute la journée? Regardez, moi je danse depuis l'âge de 14 ans, je suis pas pourri encore.
Ça vous entretient, vous êtes en train de
dire. Ça m'entretient, mais j'ai pas de gras moi.
Tablette de chocolat, hein.
J'ai mon poids de 20 ans.
Rappelez-moi votre âge.
87. Vous êtes satisfaite?
Bah, vous me rendez heureuse, monsieur.
Bon, bah c'est bien. Faites comme moi. Pas avoir de ventre.
J'en ai un peu là.
Bah oui, bah c'est pas bon. Bah oui.
Je danse plus.
Allez danser. La vie, elle est belle. Il faut la bouffer, c'est tout. À pleines dents.
Génial, Sandrine, on veut y aller.
Hein? Bah, apparemment, Baptiste oui. aussi. Donc.
Baptiste
mais
Beaulieu
je vais y
aussi.
Aller demain. Je vais y aller demain.
On va y aller ensemble.
On y va ensemble.
Oui, surtout ce qu'il faut prescrire aux gens pour les maintenir en forme.
Ça peut...
Baptiste Beaulieu, vous qui détestez le mot gériatrie, vous dites de ce mot-là, c'est horrible, c'est comme un gâteau sec oublié au fond d'un placard. Et vous dites, j'aime les vieux infiniment quand on les entend. Là, c'est formidable.
Et moi, j'avais pas peur de vieillir avant de faire médecine. Et puis, c'est vrai que d'entrer dans les services de gériatrie, de fréquenter des EHPAD, ça a généré en moi une peur panique du vieillissement. Mais il faut que je me soigne.
Sinon, qu'est-ce que vous conseillez à vos patients des livres? En tout cas, vous leur demandiez à une époque... Alors, le dernier livre qu'ils avaient lu, c'est ça?
Parce que j'aimais bien, vous savez, quand je parlais de cette planète étrangère, l'hôpital où on vient, on vous met tout nu sous une blouse, et puis les gens défilent dans votre chambre. Un interrogatoire, c'est long, et quand j'étais externe, je fais l'interrogatoire, je parle aux gens, je leur parle de sujets médicaux, d'antécédents familiaux, et à la fin de l'interrogatoire, j'aimais bien, je leur dis, et sinon, c'est quoi votre livre préféré? Après toutes mes questions, il y avait cette question qui n'était pas du tout médicale, et ils ouvraient des grands yeux, comme ça.
Et c'est là que les portes s'ouvrent et qu'on finit par
exactement,
se confier.
Exactement, exactement. Et puis d'un seul coup, c'est comme si je leur rendais leurs habits de citoyen, et que je les remettais... en tant qu'individu à part entière, capable d'autodétermination par rapport à leur traitement.
On vous voit au livre sur la place ce
oui,
week-end.
Oui, tout à fait, à Nancy.
À Nancy, hein,
c'est un excellent salon du livre. Oui.
On vous retrouve aussi lundi matin
tout
dans
fait.
L'émission d'Ali Rebéi. Et puis, évidemment, il y a votre pièce dont on a parlé au début de cette émission, au Théâtre des Béliers Parisiens, pour un petit bout de temps déjà.
Sans représentation, jusque début janvier, oui.
Merci mille fois, Baptiste Beaulieu, d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Un très, très grand merci. On se quitte pas vraiment, on quitte pas vraiment le champ de la médecine, puisqu'au téléphone sonne tout à l'heure, on va parler des gestes qui sauvent. Demain, c'est la journée mondiale des premiers secours à l'initiative de la Croix-Rouge. Alors, on va se demander pourquoi, en France, il n'y a que 30% de la population formée à ces gestes qui sauvent. Dans certains pays, comme la Norvège, par exemple, c'est 95%. Or, nous sommes tous susceptibles d'avoir à intervenir en cas d'accident ou de malaise. On a besoin de savoir ce qu'il faut faire en attendant les secours. Alors, on est tous concernés. Appelez-nous. On en parlera avec Louis-Marie Poitou de la Croix-Rouge et avec l'urgentiste Patrick Peloux. Appelez-nous au 01 45 24 7000.